L'agenda sportif sur Neptune FM avec Didier.
Amis sportifs de Lille-Dieu, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver les auditeurs de Neptune pour ce nouveau numéro du magazine des sports. Et oui, Didier m'a laissé les clés de l'émission et nous allons ensemble aborder deux sujets principaux. Le défi des ports de pêche avec la belle victoire de nos marins de Lille-Dieu. Puis nous irons à la rencontre du club d'aéromodélisme qui nous fera partager leur petit monde presque féerique. Premier rendez-vous donc au clubhouse du défi IE avec le président Marco, Marc Jolivet, un président forcément heureux après cette belle victoire.
Mais certainement qu'on est très heureux et moi je suis très fier de mon équipe. Quoi. Disons que ça fait des années, enfin avant, on était dernier, toujours. Et maintenant en 2019, ben on a gagné. En 2025, on regagne, puis l'année prochaine, on va gagner de retour. C'est évident.
Vous êtes des favoris, quoi, maintenant.
Mais on est des favoris, quoi.
Bon, alors, avant de voir avec les autres marins qui sont là, explique-nous un peu le principe de ce défi des ports de pêche. Donc, c'est un bateau commun à toutes les équipes, des bateaux qui sont tirés au sort, et avec des équipages un peu spéciaux et un peu avec une formation un peu obligatoire. Raconte-moi ça.
Oui, c'est ça, oui. Enfin, le principe d'un défi des ports de pêche, c'est de se réunir tous les ports de pêche de France. Malheureusement, il y en a de moins en moins, mais peut-être ça va revenir. Et c'est les mêmes bateaux. Et comment sur le bateau, on navigue à 6, mais il faut à la base, 2 à 3 marins-pêcheurs. 3 marins-pêcheurs, c'est mieux. Autrement, il faut 2 marins-pêcheurs, un fils de marin-pêcheur, un gars affilé filaire pêche, et un plaisancier. D'accord. Pour former un équipage de 6.
On est bien d'accord, il faut qu'il y ait 2 professionnels, 2 gars qui bossent à la mer toute l'année, qui soient sur le bateau.
C'est ça, il faut le minimum 2 gars qui bossent à l'année à la pêche, quoi, et sur 2 ans, le minimum sur 2 ans. Il faut, disons, un gars qui va naviguer un mois ou 2 mois, ça ne marchera pas. Il faut carrément le professionnel. Quoi.
Bon, alors, le lieu défi, l'association, c'est une petite association qui est ici à Lille-Dieu, qui malheureusement ne s'entraîne pas beaucoup, d'après ce que vous me disiez, parce que vous n'avez pas de bateau à vous, hein, c'est pas facile de trouver ça. Et vous vous retrouvez une fois par an et vous partez à la conquête du trophée, comme ça, en copain.
Ben, en gros, c'est ça. Quoi. Comme je disais tout à l'heure, il y a quelques années, là, on avait un bateau à Saint-Gilles, on le ramenait. Et après, on arrivait des fois à Boulogne nous prêter le bateau quand il faisait des régates. On le cherchait à La Rochelle, on revenait. Mais là, depuis 4-5 ans, on n'a plus de bateau. Donc, voilà. Donc, de toute façon, on est les meilleurs. Il n'y a pas besoin de s'entraîner. Quoi.
Alors, j'allais te demander comment t'expliques que vous gagnez. C'est parce que vous êtes les meilleurs.
Oui, les meilleurs. Et puis, bon, disons, en 2019, on nous avait subventionné d'une voile. Et on est parti à l'église la faire baptiser et on a gagné. Quoi. C'est les petits trucs qui s'ajoutent comme ça pour la victoire.
À ses côtés, nous retrouvons Noël, marin plaisancier aguerri aux régates, qui nous décrit son rôle sur le bateau.
Alors, moi, je suis à la grand voile.
Alors la grand voile, c'est un rôle important ça, c'est un rôle de marin ça.
Ah ben, c'est assez important, donc il faut tirer dessus, surtout qu'il y a du vent, c'est parce que la surface de voile est importante là-dessus. Donc, il faut beaucoup tirer. Alors, en plus, c'est surtout sur les départs, c'est difficile, parce qu'en fait, le skipper fait l'anguille avant de chercher le bon emplacement pour prendre le départ, le meilleur départ possible, parce que comme on a tous les mêmes bateaux, le premier qui part devant a plus de chances de gagner que quand on est derrière. Donc, à la grande voile, bah, il faut tirer les voûtes, parce qu'il abat, il offre sans arrêt comme ça, et c'est dès le départ, déjà, moi, je suis naze.
Alors, cette année, il y a eu en plus un truc assez extraordinaire, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. Alors, on dit que c'est souvent très capricieux en Méditerranée, mais là, c'était qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. Alors, comment vous avez géré ça?
Ben, c'est pas évident, effectivement. Pas beaucoup de vent. Il faut savoir faire agiter le bateau dans le bon sens, l'équilibre du bateau, l'emplacement des gars sur le bateau. On déplace sans arrêt. Et puis, il faut essayer de chercher là où il va y avoir le vent. Il faut partir de mon côté. Alors, des fois, il y a une part de chance aussi, parce que soit on part à droite, soit on part à gauche. Malheureusement, sur une des régates, on s'est retrouvé, alors qu'on était en tête, et à 70 mètres de la ligne d'arrivée, on est resté scotché. Et le vent s'est levé à droite. Ceux qui sont arrivés à droite nous ont passé devant.
Oui, j'ai vu ça sur les vidéos qui ont couvert l'événement. Et ça se joue à presque rien sur certaines régates.
Ah, ça se joue à rien, oui. C'est avec des bateaux comme ça, souvent ça joue à une demi-longueur de bateau. Hein. C'est impressionnant.
Donc c'est vraiment de la compète. Toi qui fais de la compète avec des plaisanciers, là aussi c'est de la vraie compète.
Ah oui, ça c'est de la vraie compète, parce que surtout que c'est de la monotypie. Hein. C'est des parcours construits là, donc c'est sur 3 bouées, donc c'est assez rapide en fait. Hein. C'est des parcours qui font à peu près 1 mille. Donc la course dure à peu près 1 heure, quoi. On fait 2 tours.
Il ne faut pas se louper.
Il ne faut pas se louper, parce que si on se loupe, une mauvaise manœuvre et les autres nous rattrapent vite fait et c'est foutu. Quoi.
Autre marin à bord, Christophe Groissart, aussi passionné et aussi important à bord.
Alors moi, mon rôle, c'est à l'embrac, donc réglage de génois et réglage de spi.
D'accord, alors ça c'est hyper technique, tu vas falloir que tu nous expliques parce que à l'embrac, je sais pas ce que c'est.
Ben, l'embrac, c'est au moment du virement de bord, il faut border la voile, enfin ma voile, donc le génois. Et sous spi, il faut régler le spi pour qu'il prenne bien le vent et partir bien vent arrière.
Alors toi, tu es un ancien marin, explique-moi, les anciens marins, ils naviguaient sur des bateaux à moteur, et comment ça se fait que la voile, c'est votre truc également?
Ben on a, à l'île Dieu, on a été bercé dans la voile, ça que pensait de bonheur, à 10-12 ans, avec un club qui avait sur l'île. J'ai toujours fait de la voile et toujours aimé faire ça. Et donc, marin-pêcheur ou pas marin-pêcheur, on fait de la voile, on continuera à en faire.
Bon, qu'est-ce que ça apporte de plus d'avoir été marin, quand même une belle connaissance de la mer?
Ben, principalement, oui, il faut connaître la mer et puis les éléments, ça fait partie du jeu. On connaît la Méditerranée, c'est un peu plus compliqué, mais... En Atlantique, on connaît bien, oui, on connaît bien.
Et le fait d'être commandé par un skipper qui est, lui, un plaisancier, on va dire, ça vous gêne pas, vous, les marins durs qui ont connu les grosses mers?
Ben, dans tout bateau, il y a un capitaine, et on respecte le capitaine, il donne des ordres, et puis on baisse la tête et on fait ce qu'il nous dit de faire, on assume.
Les marins assument, et le président assume aussi l'ambiance sur les pontons entre les régates.
Oh oui, bien sûr, quand la course est finie, bon, y a un briefing, on discute un petit peu de tout, on prend un petit apéritif ou deux, mais on ne dépasse pas deux. Et voilà, et après, tout est reparti. Je dis pas de conneries, les gars.
Non,
parce que le lendemain, il y a la compète. Donc,
oui, là, bah, voilà. T'as été parfaitement crédible jusque-là, il n'y a pas de raison que ça change.
Il n'y a pas de raison que je ne sois pas crédible jusqu'au bout.
Et comment ça se passe, les rapports avec les autres équipes qui viennent de la France entière?
Très bien. Très bonne. On a des bonnes relations. Tout le monde se respecte, quoi. Bon, sur le plan d'eau, c'est vrai que là, c'est la bagarre, quoi. Il n'y a pas de cadeau. Mais dès que tout le monde est rentré dans le port, terminé. Tout le monde se salue, tout le monde... Enfin, moi, personnellement, depuis des années, hein, je n'ai jamais entendu. Non.
Bon, alors, le trophée, il est là. Il trône sur le bar de votre clubhouse. L'année prochaine, vous le remettrez en jeu. Est-ce que tu sais déjà où ça va avoir lieu ou ça va se décider un peu plus tard?
Non, mais enfin, on le sait. Si tout va bien, ça sera à Royan.
Ah, ça sera moins loin déjà?
Ça sera moins loin. Alors, Royan, et peut-être l'autre année après, enfin, ça va dépendre, on ne sait pas. Parce que dans le temps, c'est celui qui gagnait, oui, qui le faisait dans son port. Mais maintenant, c'est une histoire de gros sous, et c'est les mairies qui décident. Ils le prennent ou ne le prennent pas. Alors, peut-être sera chez nous, peut-être pas, on ne sait pas.
À Royan, ça va être une belle bagarre, parce que je crois bien que ce sont eux qui sont arrivés deuxième.
Oui, c'est ça, ça va être une belle bagarre, ouais.
Quelle belle réussite! Des plaisanciers et des pêcheurs dans le même bateau. L'envie de gagner et la passion de la mer réunies, c'est toute l'île Dieu qui gagne. On a parlé de la mer, parlons maintenant des airs. Nous avions rendez-vous dimanche dernier avec Christophe Henry, le président du club d'aéromodélisme, pour la séance d'entraînement du dimanche matin à la salle Omnisport.
Aujourd'hui, on fait du vol indoor, c'est-à-dire que c'est des avions qui font une centaine de grammes à peu près, et on évolue dans la salle Omnisport, donc on s'affranchit des conditions météo, et qui peuvent être capricieuses des fois à l'île-dieu ou ailleurs. Et voilà, donc le but du jeu, c'est évoluer, faire de la voltige, et d'abord maîtriser cet avion dans un espace qui est clos et restreint. Les murs nous rappellent à l'ordre rapidement. Donc c'est une autre manière d'évoluer et ça permet d'affûter son pilotage.
Bon, alors raconte-moi, c'est une petite association de l'IDIEU qui marche bien, ça? T'as combien d'adhérents?
Alors, c'est une petite association. Le club de modélisme existe depuis 1982. C'était nos anciens qui ont fondé ça et qui sont toujours dans le club d'ailleurs. Et ben, voilà, on est une vingtaine d'adhérents à évoluer, donc au terrain Route des Sabiens. Et puis maintenant, depuis quelques temps, dans le créneau. Dans les créneaux qu'on a à la salle indoor.
Donc tout le monde a son petit matériel personnel, oui, que vous fabriquez pour la plupart, vous venez évoluer en groupe.
C'est exactement ça, chacun son petit matériel, et puis après on s'échange des conseils, enfin, c'est le but du club, les réglages, qu'est-ce que tu penses de mon avion, moi je trouve qu'il évolue pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire, enfin voilà, les améliorations, les corrections qu'on peut apporter, c'est le but du club, c'est un des échanges.
À ses côtés, Alain, le secrétaire, revient sur la mission éducative du club.
fait, notre activité s'inscrit aussi dans le cadre des trainbots, puisque nous assurons l'animation de construction de planeurs pour les enfants de 9 à 11 ans.
Très bien.
Et donc, ils viennent, pendant la première séance, découvrir l'univers justement de l'indoor dans la salle. Ils reviennent dans la dernière séance, parce que nous avons 5 séances, dont 3 séances de construction, pour faire un petit concours de lancer de planeurs. Alors voilà les planeurs qu'on... fait construire. Ce sont des planeurs très légers. Mais en
alors ça pèse combien ça? 20 grammes même pas?
Oui c'est ça, en gros. Ouais. Même on peut faire encore plus léger. Mais donc les enfants de 9 à 11 ans eh bien, sont très assidus et très précis, très attentifs. Ils suivent tout à fait les consignes parce que ça demande quand même plusieurs étapes. Et après, eh bien, effectivement, ils apprennent à lancer ce petit modèle-là,
ah,
on découvre vraiment la magie du vol.
Voilà, parce que qui dit planeur dit pas de moteur.
Pas de moteur.
Donc c'est uniquement
voilà, le lancer en fait, mais aussi la perception qu'on a justement du mouvement et puis de la force qu'on doit donner. Et donc ça, les enfants y arrivent assez bien et assez rapidement. Et c'est ça qui est très intéressant. Ils découvrent vraiment tout cet univers-là.
Alors, je suppose que tu ne fais pas qu'une activité de planeur, tu as également ton petit modèle réduit à toi, je suppose.
Ben oui, tu l'as vu évoluer à l'instant, effectivement.
Donc, qu'est-ce qui te branche là-dedans, toi? C'est à la fois le côté je bricole mon petit appareil, puis après, j'essaie d'évoluer dans...
Alors, c'est un petit peu plus, je dirais, complet que ça et compliqué d'une certaine façon, parce que j'ai toujours baigné dans le milieu aéronautique. Donc, j'ai volé pendant un certain nombre d'années à l'Aéroclub de Lille-Dieu.
D'accord.
Et donc, que ce soit l'aviation grandeur ou l'aviation en modèle réduit, voilà, c'est un petit peu la même chose. C'est le plaisir, effectivement, de faire connaissance en fait avec un univers qui est celui de l'aéronautique. Alors ça touche aussi bien l'histoire que la technique, que la météo, etc. Et je crois que quand on a cet intérêt-là, eh bien, que ce soit la petite aviation ou la grande aviation, au sens très large du terme, eh bien, on est animé en fait par la même passion. En fait.
Parce que je le vois évoluer là, il y a un de tes collègues qui en fait fonctionner un.
Oui.
Ça vole comme un avion en gros.
Ça se pilote exactement comme un avion. Donc plusieurs d'entre nous d'ailleurs sont pilotes du LM, pilotes de planeur et pilotes d'avion de tourisme. Et donc c'est exactement la même commande, sauf que je dirais dans certaines figures c'est un petit peu plus compliqué parce que quand on arrive de face, eh bien la droite et la gauche sont inversées.
D'accord.
Et quand on vole sur le dos et
ah
de
oui.
face, tout est inversé. C'est-à-dire que là il faut que ça connecte bien à la fraction de seconde si on ne veut pas... voilà.
Alors Christophe qui est juste à côté nous dit il faut que le cerveau soit inversé, c'est ça?
Ben, il faut que ce soit un automatisme et qu'on n'ait pas à réfléchir. Si on réfléchit, c'est trop tard.
Parmi les plus anciens adhérents, nous retrouvons Michel qui fait, lui, plutôt dans le gigantisme en matière de modèle réduit.
J'ai un Pilatus qui fait 3,17 m d'envergure.
Ah oui, il faut un garage là.
Ah ben, le garage, il y a 200 mètres carrés. Le club s'est monté comme ça, par intermédiaire de certains qui avaient commencé, enfin, c'est notre copain comment Friou, qui, ouais. Nina, ce qu'on appelle Nina,
oui.
Qui a commencé. Et puis, notre Alberno, lui aussi, ça l'avait intéressé, mais il partait sur le continent pour faire des entraînements. Puis il partait avec l'avion entier, puis il revenait avec l'avion en morceaux, par le bateau. Alors c'est comme ça qu'il a appris, et puis après, moi, un jour, en passant au terrain, comme ça, en se baladant, puis ça m'est venu, ça m'est intéressé, parce que moi, j'aime bien le modèle ordi, de construire n'importe qui, comme des bateaux ou des avions. J'en ai construit des avions, et le broussard, j'ai construit. Et donc,
toi, ta passion, c'est vraiment de construire, c'est de faire voler, mais d'abord, c'est...
Aujourd'hui, on n'a pas le temps de construire, parce que ça prend quand même du temps.
Ah oui.
Et puis, on veut voler, parce que, bon, arrivé après à l'âge, on n'a plus 20 ans, donc...
Mais il n'y a pas que des moteurs électriques ou atmosphériques, il y a aussi des élastiques. Eric nous décrit sa passion extraordinaire pour les vols cacahuètes.
Ça s'appelle des modèles réduits cacahuètes, ça pèse entre 3, 5, 10 grammes, ça peut voler une minute, ça ressemble à des anciens avions pour exister.
D'accord.
Ça peut être en déperon, en balsa ou en papier.
D'accord. Voilà. Et alors je vois qu'il y a une petite élastique.
Voilà, c'est des élastiques spéciaux, on fait des championnats d'Europe, en Hollande, des fois en Angleterre. en Italie. À Orléans, il y a un très beau concours de cacahuètes. Il y a pas mal de bons constructeurs. Et on se régale. Voilà.
Et tu arrives à diriger ce...
Non, ça vole tout seul.
D'accord.
C'est une fois lâché, ça part...
Donc le but du jeu, c'est que ça vole le plus longtemps possible.
Voilà, que ça soit le plus ressemblant qu'un avion, un vrai.
D'accord.
Sacré personnage, ce Eric, qui nous a demandé avant l'interview de taire son nom, sa femme pensant qu'il pilote de vrais avions. En fait, ce sont tous des passionnés, un mélange de génie du bricolage et de la voltige, comme Damien, qui nous décrit son petit bijou d'appareil.
C'est mon père en fait qui en faisait, et puis comme je le suivais souvent étant gamin,
ouais.
Depuis l'âge de 12 ans en gros quoi. Donc ça fait bientôt 40 ans que je fais du modèle réduit. Un peu tout, avion, bateau, un peu hélicoptère aussi.
D'accord.
Ouais.
Et là, donc pour la salle, t'as ce petit appareil qui
donc
fait...
C'est un appareil spécifique, oui, pour du vol en salle. Oui.
D'accord. Alors, oui. Est-ce que tu peux m'expliquer, je vois, il y a un peu de fil, un peu de... Qu'est-ce que c'est que ce petit montage là? Alors, t'as un petit moteur électrique hein,
oui, c'est ça. Il y a un petit moteur électrique. Tout est plus léger, en fait. Hein. Donc, c'est des équipements spéciaux pour les avions en salle.
D'accord. Et le petit moteur, il pèse combien, à peu près pour,
Le moteur, c'est 20-30 grammes. Ouais, ouais.
Donc, avec 30 grammes, tu arrives à faire...
Ça fait 140 grammes, à peu près.
Ouais. Et tu peux faire un vol de combien t'as une autonomie de combien, là?
10 minutes, à peu près.
10 minutes,
oui.
D'accord.
Oui.
OK. Et puis je vois que tu as une sacrée boîte de télécommande.
Ça permet de mixer un peu tout, quoi, en fait, pour assouplir un peu les commandes.
Et la dextérité, ça s'apprend, ça? Ou
ah, oui.
T'as progressé? Toi, tu sens que tu as progressé?
Oui, 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 oui. Mais le vol en salle fait progresser assez rapidement, en fait.
Parce que là, t'as pas d'éléments extérieurs.
C'est ça, oui.
Ouais.
Rendez-vous bientôt au terrain de la route des Sabias, où nous irons découvrir les modèles toujours réduits, mais un peu plus costauds de nos amis de l'aéromodélisme. N'hésitez pas à aller vous promener dans ce quartier le week-end. Vous pourrez y rencontrer des mecs passionnants avec leurs drôles de machines. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de regarder demain, samedi 28, sur le coup de 10h, l'émission de France 3, Rencontre à 15, qui nous proposera un joli reportage sur Yeux Ovalie, notre club de rugby. En attendant, vive l'été et le sport. Prenez toujours soin de vous et à bientôt sur tous les terrains.
L'agenda sportif sur Neptune FM avec Didier. Et à retrouver sur neptunefm.com.